Manon Becker.
Bonjour, la fête illégale se poursuit à Malleray. Quelques 2000 personnes ont investi depuis hier des pâturages pour une rave party non autorisée. Les fêtards sont venus de toute la Suisse, mais aussi d'Espagne, d'Italie, de Grande-Bretagne et de France. Les explications d'Alexandre Rosset.
Il y a encore beaucoup de va-et-vient sur le site, constate le maire de Valbirse en cette fin de matinée. La police cantonale bernoise signale qu'une opération des forces de l'ordre s'est tenue hier soir. La préfète du Jura bernois s'est déplacée avant l'intervention avec des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes, indique un article du quotidien Le Matin. Face à la résistance des festivaliers, la Sono n'a pas pu être confisquée. De leur côté, les agriculteurs de Malleray ont envisagé un épandage de purins pour dissuader les fêtards. Ils y ont finalement renoncé.
Selon les organisateurs, la fête devrait durer jusqu'à demain. Avec Tout Feu Tout Flamme, l'Orchestre Symphonique des Jeunes de Bienne fête en musique ses 20 années d'existence. Un concert a déjà eu lieu hier soir à Inns. Deux autres suivront à Bienne les 27 et 28 juin. L'orchestre réunit aujourd'hui une cinquantaine de musiciennes et musiciens de la région. Lionel Turcher est directeur de l'école de musique Bienne. C'est lui qui a fondé le plus grand ensemble d'élèves de l'école de musique de Bienne en 2005. Il fait le bilan de ses 20 dernières années.
Bon, positif bien sûr, puisque 20 ans sont passés et cet orchestre est là et se développe constamment. Musicalement aussi, c'est un ensemble qui a constamment progressé. Les jeunes, le niveau instrumental des jeunes d'aujourd'hui et des jeunes d'il y a 20 ans est vraiment pas comparable. On peut aborder maintenant aujourd'hui des grandes œuvres du répertoire symphonique sans avoir trop peur. Et ils sont capables de déchiffrer, de gérer très très vite aussi tout ce qui est du domaine du jeu d'ensemble, de l'écoute des uns des autres.
Et cette différence de niveau, vous l'expliquez comment ?
Là aussi, c'est le niveau général aussi dans l'école de musique qui a augmenté, la qualité de l'enseignement qui est naturellement là au centre. Beaucoup d'élèves sont aussi dans les classes d'encouragement, jeunes talents. Et là aussi, il y a un univers qui s'est créé, qui s'est consolidé et qui a permis et qui a fait que le niveau général comme ça est monté. Il y a plus de dynamique aussi, c'est-à-dire que les jeunes talents sont plus en contact avec d'autres jeunes talents et ça contribue aussi à cette dynamique qui les fait avancer. Et puis les jeunes qui adorent les défis. En fait, il faut voir ça aussi de ce côté-là. Quand on leur dit « on va jouer la cinquième de Beethoven », ils ne vont pas dire non.
Justement, répertoire symphonique classique, musique de film ou création contemporaine, l'Orchestre symphonique des Jeunes de Bienne touche à tout. À 17 ans, Myriam Kobialianski joue du violoncelle depuis 5 ans au sein de l'OSJB. Elle nous parle du programme de cet anniversaire, mis à part la 5e symphonie de Beethoven.
Les danses de Galanta. Dans les deux concerts à Bienne, on va jouer Kabalevski, un concert pour violon. Aussi des musiques de film pour célébrer les 20 ans, parce que le premier programme, c'était tout des musiques de films, donc on a pensé que reprendre aussi Shore, les Seigneurs des Anneaux, ce serait vraiment remémorer le début de l'orchestre.
Vous avez une préférence dans ce programme au niveau des musiques ?
J'aime beaucoup les danses de Galanta, je trouve que c'est très spécial, puis on peut vraiment danser là-dessus.
L'OSJB accompagnera en outre la jeune violoniste Safeya Tabib dans le concerto pour violon de Dimitri Kabalevski. Une trentaine d'écrivains en herbe venus de toute la Suisse sont réunis à Deux-Lémont ce week-end. Ils participent à la finale du concours d'écriture Linguissimo qui est organisé par le forum Helveticum, le centre de compétences pour la compréhension culturelle et linguistique. Les finalistes ont été sélectionnés parmi plus de 300 jeunes Suisses âgés de 16 à 21 ans et issus des quatre langues nationales. Nous avons assisté hier à un atelier poésie reportage.
Prenez des feuilles, là. On va faire cet exercice avant de sortir. Deux feuilles chacune.
Je m'appelle Blake Eduardo, je suis magicien et depuis quelques années j'écris beaucoup, je me suis remis à l'écriture et là je suis un des intervenants, des quatre intervenants pour l'atelier poésie.
Vous leur donnez un peu des outils, des choses qui vont leur servir dans la réalisation du poème.
Oui, c'est exactement ça, c'est le mot, c'est outil, c'est chercher à trouver comment structurer son esprit avec des mots pour pouvoir trouver des nouvelles manières d'exprimer quelque chose. Pour moi, la poésie, c'est mettre des mots ensemble et générer des nouvelles images. Donc, c'est à eux de trouver les mots qui leur parlent.
L'écriture automatique, c'est une écriture où on ne réfléchit pas et on met tout ce qui nous passe par la tête. Je vous mets en garde, vous allez avoir mal au poignet. C'est parti. Dans ma ville, virgule,
Marine Borel, je suis responsable de projet pour une association qui s'appelle Forum Helveticum. Et on a différents projets, dont Linguissimo, qui est notre concours d'écriture. Donc on a un jury qui est composé de représentants et représentantes des quatre langues nationales qui s'est réuni en mars au siège du Forum Helveticum à Lenzbourg. Et là, le jury a choisi donc une trentaine de jeunes. Ils les ont choisis pour leur créativité. Et ces jeunes ont donc été invités à ce week-end de finale ici à Delémont. Et durant ce week-end de finale, donc les jeunes participent d'abord à des ateliers d'écriture, en l'occurrence sur le thème de la poésie. Et puis ensuite, ils et elles doivent rédiger des poèmes bilingues ou plurilingues en tandem.
Je m'appelle Fanny et je viens d'un petit village dans le canton de Fribourg qui s'appelle Corseret.
Tu participes donc à cette finale. Comment ça s'est passé, tout le processus finalement, pour arriver ici aujourd'hui à Delémont?
Alors, c'était notre prof de français qui nous avait demandé de participer, enfin, demandé plutôt forcé. Et donc, on avait chacun écrit des textes, et un en allemand et un en français. Mais alors, je ne m'imaginais pas du tout arriver ici. C'était un peu la surprise quand j'ai vu le mail.
Moi, je m'appelle Firmin et puis je viens de la région d'Yverdon.
Tu pensais être sélectionné ou pas du tout
Je m'y attendais pas forcément, dans le sens où j'ai toujours eu pas mal de faiblesses pour ce qui est écrire des textes au niveau de tout ce qui est syntaxe, orthographe, etc. Mais au niveau du sens et du message que je voulais faire passer dans mes textes, j'avais un peu cette espérance d'être pris, et puis ça a été le cas.
Vous finissez quand vous voulez.
Un reportage d'Alexandre Rosset. Festinoche, c'est de la musique, mais pas seulement. La cuisine a aussi droit de cité sur les jeunes rives. 30 stands sont au rendez-vous pour satisfaire les appétits des festivaliers. Les organisateurs de la manifestation mettent un point d'honneur à proposer une palette culinaire variée et de qualité. Une équipe de goûteurs teste pendant le festival toutes les propositions gastronomiques pour définir les trois meilleures. Caroline Juillera, responsable de la gestion des stands.
Ils ont des critères de sélection et d'évaluation et ils goûtent tous les stands sur l'espace du festival et ils sélectionnent après trois gagnants et qui vont faire un joli prix. Et généralement, ça met beaucoup en avant la personne qui a gagné. C'est assez reconnu aussi dans les autres festivals.
Mais donc l'équipe de goûteurs est là uniquement pour ce concours, hein, pas pour surveiller les stands pendant la durée du festival.
C'est absolument pas pour surveiller, c'est vraiment pour goûter. C'est vraiment les papiers qui sont mis en avant sur l'accueil, sur la qualité de la nourriture, sur vraiment le tout. Et puis ça nous permet aussi d'avoir une petite pression aussi sur les stands pour savoir qu'il y a ces testeurs qui sont vraiment en mode anonyme et qui viennent vérifier que tout se passe bien dans les assiettes aussi pour les autres festivaliers.
Élan de solidarité avec la population de Blatten. Plus de 35 millions de francs de dons ont été récoltés en un peu plus de deux semaines en faveur du village valaisan, selon les calculs du matin dimanche. La localité a été en grande partie détruite à la fin du mois de mai par l'effondrement du glacier du Birch. À elle seule, la chaîne du bonheur a recueilli plus de 17 millions de francs. Aux dons des organisateurs d'entraide, il faut ajouter les 10 millions de francs débloqués par l'État du Valais et les 5 millions votés par le Parlement fédéral jeudi. On passe au sport. No accueille la 97e fête de lutte du Jura bernois. Après avoir vu les jeunes lutteurs se défier hier, c'est au tour des actifs de lutter dans la Sûre au pied du Chasseral. Les lutteurs affluent de tout le canton de Berne. Parmi eux, Mirko Chan du club de lutte de Tavannes. Le sportif de 17 ans a déjà combattu hier avec les jeunes lutteurs et il remet le couvert aujourd'hui avec les actifs. Étant issu d'un des deux clubs du Jura bernois, cette fête de lutte se joue presque à domicile. Est-ce que cela change quelque chose ? Mirko Chan.
Déjà, c'est un peu plus petit, toujours les fêtes de lutte chez nous, c'est autrement. Déjà, ça parle aussi plus français. Alors, on se sent comme un peu plus chez nous, oui, c'est ça.
Le fait que ce soit plus petit, c'est un avantage, c'est un inconvénient, c'est plus familial, c'est plus compliqué, c'est comment ?
Je pense que c'est pas vraiment un avantage ou un inconvénient, c'est autrement. C'est... De toute façon, les ronds de lutte, ils ont la même taille. Il y a un peu moins de spectateurs, mais ça n'a pas vraiment d'avantages ou d'inconvénients.
Est-ce qu'il y a un classement général ou bien c'est juste par journée, par fête de lutte, le classement ?
Alors vers les jeunes, c'est juste par fête de lutte. Ils n'ont rien qui a un classement général. Après, vers les adultes, c'est aussi par fête de lutte le plus important. Mais après, il y a un journal qui fait un classement général avec des points, avec un système de points assez spécifique. Puis là, ça, c'est le classement général officiel, quoi. Il y a chaque fin d'année un lutteur actif qui est nommé meilleur lutteur actif.
J'entendais aussi beaucoup de personnes qui étaient impressionnées par le fair play. C'est quelque chose qui est important dans votre sport ?
Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Si on n'est pas fair play, ils peuvent nous retirer des quarts de points. Puis c'est vraiment quelque chose qui est dans le sport, quoi, le fair play. Si t'es pas fair play, on te le dit.
Le lutteur du club de Tavannes, Mirko Chan, répondait à Tom Bühlmann. La passe finale aura lieu vers le coup des 16h30. En football, le FC Tavannes-Tramelan et le FC Moutier ont tiré leur révérence. Le FCTT a quitté la deuxième ligue interrégionale hier soir par une défaite 2-1 contre Old Boys à Tramelan lors de la dernière journée. L'équipe du Jura bernois termine dernière du classement à 11 points du premier non relégable. Le FC Moutier, lui, a quitté la deuxième ligue par la grande porte. Les Prévotois, qui étaient déjà condamnés à la relégation, ont battu Vorbes 2-1 pour l'honneur à Chalières. Autre équipe reléguée, Bessabie a fini en beauté aussi avec une victoire 3-2 à Gurnstern. Le gratin du cyclisme mondial fait à nouveau escale dans notre pays. Le Tour de Suisse se tient aujourd'hui à dimanche prochain sur les routes alémaniques et tessinoises. À moins d'un mois du début du Tour de France, la boucle helvétique accueillera plusieurs grands noms de la petite reine qui veulent se mettre en jambes. Michel Léoni.
Honneur aux représentants de l'équipe helvétique Tudor Pro Cycling. Le Suisse Marc Hirschi et le Français Julien Alaphilippe s'avancent comme des coureurs à suivre pendant la semaine. Il en va de même pour le grand favori de l'épreuve, le Portugais João Almeida, vainqueur en avril du Tour de Romandie. D'autres grands noms espèrent tirer leur épingle du jeu ces prochains jours. C'est le cas du Danois Mathias Skelmos, vainqueur du Tour de Suisse en 2023, de l'Autrichien Félix Gall et du Russe Alexander Vlasov. Côté Suisse, hormis Marc Hirschi, le jeune Jan Christen et les expérimentés Stefan Küng et Stefan Bissegger seront au départ. Les deux rouleurs auront toutefois de la peine à se mettre en évidence lors du seul contre-la-montre de l'épreuve. Ce dernier sera en montée dimanche prochain en Suisse centrale et pourrait bien devenir le juge de paix de cette QV 2025 qui s'annonce spectaculaire.
Le Tour de Suisse cycliste commence donc cet après-midi avec une étape en boucle de 129 km autour de Küsnacht dans le canton de Schwyz. L'arrivée finale sera jugée dimanche prochain à Stokutte après le contre-la-montre final éprouvant de 10 km. Le Tour de Suisse féminin connaîtra son épilogue aujourd'hui. La Bernoise Marlène Reusser est en tête du classement général avant la dernière étape. Elle compte 3 secondes d'avance sur la néerlandaise Demi Vollering. On termine par un peu de fraîcheur, on parle hockey sur glace. Deux départs se dessinent à Zurich. L'équipe de National League annonce aujourd'hui que son Finlandais Juho Lamiko va rejoindre New Jersey en NHL. Le jeune Autrichien à licence suisse Vincent Rohrer participera lui au camp des Canadiens de Montréal en NHL également. Météo aujourd'hui, le ciel devrait rester changeant. Le milieu d'après-midi pourrait s'éclaircir, mais attention, des averses orageuses sont attendues jusqu'en fin de journée. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre écoute et bonne suite de journée.